BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler beaucoup d'industrie, de réforme, réforme de traite, mais bien sûr, de réforme de l'assurance chômage. Mon invité est déjà en studio, Alexandre Sobo, directeur général de Holot Group, l'ancien patron de l'UEM. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On reviendra sur ces grandes réformes que vous avez aussi conduites. Vous nous direz un petit peu comment vous trouvez, puis comment vous sentez un peu le climat. On sent qu'il est difficile. Je recevrai François Bujon de l'Étang aussi dans le club de l'heure H, ambassadeur de France, pour parler évidemment de Donald Trump, mais peut-être aussi des Elisabeth Warren, celle qui monte en l'occurrence du côté des démocrates. Et puis ensuite, c'est Philippe Varin. Alors Philippe Varin, il est président de France Industrie, on parlera du pacte productif. Il est le président du conseil d'administration d'Orano. Orano, et on attend ce gros contrat, notamment peut-être en Chine, avec la visite du président Macron. Puis c'est bien sûr une question sur PSA, Fiat Chrysler, puisqu'il a été le président de PSA. Mais pour l'instant, c'est Thomas Asportas qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. C'est l'actualité à suivre. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine. C'est la deuxième fois que le chef de l'État se rend en Chine depuis son élection, et ce CRU 2019 a clairement des visées commerciales avec une cinquantaine de patrons français qui vont accompagner Emmanuel Macron, même si au final, peu de grands contrats sont attendus. On surveillera quand même, vous le disiez Edwige, l'évolution du dossier Orano, puisqu'on attend toujours la signature d'un contrat à plus de 10 milliards d'euros pour une usine de retraitement du combustible. Philippe Varin, effectivement, nous en dira plus, en tout cas, on l'espère, tout à l'heure à 12h30. Le secteur manufacturier reste en contraction en zone euro pour le 9e mois d'affilée. Les PMI manufacturiers en octobre sont toujours au plus bas depuis 7 ans. En Allemagne, les nouvelles commandes en industrie ont reculé pour le 13e mois d'affilée. En France, en revanche, l'industrie résiste avec une production manufacturière qui a continué de progresser. C'est le mois dernier. Sur le front des tensions commerciales, et puisqu'on parle d'industrie, le secteur automobile va peut-être pouvoir un peu souffler. Les États-Unis pourraient en effet renoncer à des droits de douane envisagés à partir du 14 novembre. Des droits de douane de 25% sur les importations américaines d'automobiles qui avaient été décidées en février pour des motifs de sécurité nationale. Mais depuis, le secrétaire au commerce Wilbur Ross affirme que les échanges ont été fructueux avec les constructeurs européens, japonais et coréens. Dans l'actualité des entreprises, ça vient de tomber. Bruxelles ouvre une enquête sur une possible collusion entre Casino et Intermarché. Les deux groupes ont créé en 2014 une centrale d'achat commune et la Commission européenne s'inquiète que Casino et Intermarché se soient livrés à un comportement anticoncurrentiel. Margret Vestager lance une enquête approfondie sur le sujet. Dans le reste de l'actualité, Ryanair résiste au premier semestre. La compagnie publie un résultat net équivalent à celui du premier semestre 2018 et supérieur aux attentes. Mais cela n'empêche pas Ryanair de rester très prudent pour la suite à cause du Brexit, de la concurrence entre compagnies aériennes en Europe et aussi à cause, bien sûr, du 737 MAX. Toujours dans le secteur aérien, IAG, la maison mère de British Airways, notamment, rachète la compagnie espagnole Air Europa, une opération à 1 milliard d'euros. Cela fait la troisième compagnie espagnole dans le giron d'IAG avec Iberia et Vueling. Avec cette acquisition, IAG veut s'imposer sur les liaison vers l'Amérique latine et faire de Madrid l'un des principaux hubs aériens en Europe. Et puis un dernier mot d'aérien pour vous dire qu'après la méga commande indienne de 33 milliards de dollars passée Airbus la semaine dernière, l'avionneur engrange ce matin une nouvelle commande, 16 Airbus A330neo de la part de la compagnie philippine Cebu Pacific Air pour un montant de 4,8 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite confirme la prochaine entrée en bourse de Saudi Aramco. Ce sera sous peu, dit le Royaume, et sur le Tadawul, la bourse nationale saoudienne. Le prospectus de l'opération sera publié le 9 novembre et les premiers échange devrait avoir lieu en décembre. BFM Business, il est midi 4. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est nettement dans le vert. On gagne 1,12% à 5 826 points, des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis très très longtemps. Clairement au plus haut de l'année, l'euro-dollar est à l'équilibre. 1 euro s'échange pour 1,61 $.
Merci Thomas, on vous retrouve pour un rappel des titres à 12h30. Dans un instant, la grande question, un peu le climat social, il est lourd. On le voit bien du côté des Français, des gilets jaunes peut-être. Qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises? On voit ça tout de suite avec Alexandre Sobo, le patron de l'autre groupe.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Alexandre Sobo, rebonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le directeur général de Holot Group, ancien président de l'UEM, on va le dire. C'est important parce que toutes ces négociations sur les retraites, l'assurance chômage, vous aussi, vous les avez conduites. En plus, vous étiez le monsieur social du MEDEF. Le climat, on voit bien que donc on a tous un peu en perspective ce 5 décembre avec le spectre du 5 décembre 95, avec les gilets jaunes. Enfin bref, climat social un peu lourd, c'est ce que me disait ce matin Laurent Berger, leader de la CFDT. Du côté patronat, est-ce que vous ressentez ce climat social très pesant?
Dans les entreprises, à part peut-être quelques entreprises en grande difficulté, mais il y en a de moins en moins, le climat social est bon. L'activité est correcte, les résultats sont bons, les salaires ont plutôt augmenté ces dernières années. Donc je pense que la pression vient pas du tout des entreprises ou de l'intérieur des entreprises, mais plutôt de ces questions qui traversent l'ensemble de la société. Vous en évoquiez deux, l'assurance chômage ou les retraites. Et donc c'est plutôt une question de climat social collectif et donc en dehors de l'entreprise aujourd'hui, très clairement.
En dehors de l'entreprise, ça c'est un point important. Cela dit, hier on posait la question là encore, hein, je vous fais des témoignages, mais Ségolène Royal, qui a parfois quand même des intuitions assez fortes, elle disait, mais quand vous avez des grèves, quand vous avez ce mouvement social, ça a forcément une répercussion sur la croissance, donc sur les entreprises.
Ah ben, en termes d'activité...
Le mois de décembre pour vous, l'année dernière, j'imagine, ça n'a pas dû être terrible.
Nous, on fait un métier très business to business, on fait un métier avec beaucoup d'exportations, donc honnêtement, la crise des gilets jaunes de l'hiver dernier a eu très peu d'effet sur notre propre activité. Ça a impacté quelques secteurs bien identifiés. On a aussi observé des modifications de comportement d'achat avec des gens qui changeaient le jour de la semaine. Et au final, l'impact économique, macroéconomique de cette crise a été assez limité.
D'accord.
Et donc aujourd'hui, ça va dépendre de l'ampleur des mouvements sociaux, de l'ampleur des blocages. Est-ce que c'est très limité à Paris et la région parisienne? Est-ce que ça va au-delà? Donc tout le monde attend ça avec un peu d'inquiétude, mais il ne faut pas non plus surestimer.
Absolument, vous avez raison. Il ne faut pas faire la surenchère et faire peur. Écrit au loup trop tôt. Donc, du côté des entreprises, vous avez le sentiment que la conjoncture est plutôt bonne, plutôt
favorable. La conjoncture résiste, elle est moins bonne qu'il y a un an, mais on est encore sur des niveaux positifs, c'était rappelé sur la production industrielle. Il y a un environnement qui est moins favorable, des tensions commerciales, un fort ralentissement de l'Allemagne, très impacté par le ralentissement du commerce mondial. C'est des choses, non pas attendues, mais qui deviennent tangibles. La France étant un peu moins exposée à ce genre de choses, l'activité aujourd'hui est encore tout à fait correcte, même si elle est peut-être un peu moins bonne qu'attendue il y a 6 mois et un petit peu moins bonne que l'année dernière.
Ouais. Alexandre Sobeau, la réforme, deux réformes, hein, d'accord, réforme des retraites et puis la réforme de l'assurance chômage. On va peut-être commencer d'abord par celle-là. Est-ce que l'argument mis en avant par la ministre du Travail, que je répète, je la recevrai demain, est de dire c'est bon pour l'emploi parce qu'on va avoir... les gens, ça va les inciter à se remettre dans l'emploi. Est-ce que c'est un argument que vous entendez, que vous trouvez bon?
En tout cas, c'est un argument qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. Ce qui est clair, c'est que les règles qui existaient jusqu'à la réforme de 2017, puisqu'on a commencé entre partenaires sociaux à les faire évoluer en 2017 et on avait prévu de continuer, le gouvernement a souhaité accélérer le calendrier et l'ampleur des évolutions. Donc, on va avoir des effets sur le comportement des gens. Et par nature, tout ce qui a des effets sur le comportement des gens, c'est le plus difficile à prévoir. J'ai aussi eu la chance de présider l'UNEDIC pendant 2 ans.
Oui,
on a fait beaucoup d'études pour savoir ce qui se passe. Et il y a toujours cet aléa qui est à comportement identique. Quand on fait une réforme, on sait en mesurer les effets. Mais il y a toujours cette prudence de dire, puisque les règles changent, le comportement des acteurs, en tout cas une partie d'entre eux, va changer.
Oui.
Et c'est cette évaluation-là qui est difficile à faire. Donc, on est dans une situation du marché du travail où il fallait bouger les curseurs et continuer à bouger les curseurs. Ensuite, il va falloir évaluer les conséquences. Quel est l'effet revenu? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir ou pas une forte baisse de l'indemnisation
du chômage? Parce que selon la CFDT, donc Laurent Berger, encore une fois, que je recevais ce matin, il y a une enquête de l'UNEDIC qui montre que ça va toucher entre 1 million et 1,5 million de personnes qui ne vont plus rien toucher, ou du moins qui vont être impactées par cette retraite.
Qui vont le toucher, s'ils ne changent rien à leur comportement, qui vont le toucher plus tard.
Mais encore faut-il qu'ils puissent changer de comportement.
C'est bien ça la question. Oui. Et donc, ça revient à votre question initiale qui est dans l'état actuel du marché du travail où les entreprises ressentent une tension et une difficulté à recruter, modifier un certain nombre de règles est sans doute une bonne chose. Ensuite, dans quelle ampleur, avec quelles conséquences, c'est on bouge les curseurs, on regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui a beaucoup d'effets comportement, un peu d'effets revenus ou le contraire, et c'est au vu de cette analyse qu'il faudra peut-être, le cas échéant, ajuster le tir.
Est-ce que cette réforme vous paraît... inique et injuste, ça, c'est une punition selon Laurent Berger, qui est plutôt un homme modéré, hein, mais qui connaît très bien la question du travail.
Il y a une vraie difficulté de toutes ces réformes quand on touche aux droits des chômeurs, c'est qu'on touche à des gens qui sont en difficulté globalement et en précarité. Et donc, évaluer leur capacité à modifier leur comportement est jamais facile a priori. Donc, quand on fait une étude tout statique en disant on change juste les règles et il ne se passe rien d'autre, on a un effet qui peut être assez douloureux pour les chômeurs. Tout le pari du gouvernement et tout ce à quoi moi aussi je crois profondément, c'est que dans l'état du marché du travail, une telle réforme va changer les comportements. Et donc ce qu'il faudra mesurer, c'est les effets de la réforme après modification des règles et des comportements.
Oui, mais alors la question que j'ai...
Madame Chevrillon, quand on regarde dans le passé, quand on a fait toutes les mesures pour favoriser l'accompagnement des chômeurs, justement, qui alternaient emploi et travail, on a modifié des comportements. Et il s'est créé des situations qui n'existaient pas avant. Donc quand on va remodifier les règles, il est sûr qu'on va modifier les comportements. La question, c'est dans quelle ampleur. Et aujourd'hui, personne ne peut prétendre avoir la vérité. Chacun peut avoir sa conviction. Et ce qu'il va falloir, c'est le mesurer au plus près et, le cas échéant, ajuster les situations les plus injustes.
La question qu'on peut se poser, parce qu'on dit, il y a d'un côté, vous avez 300, 400 000 postes qui ne sont pas pourvus de votre côté, du côté des entre-déchets d'entreprise, enfin des entreprises. Puis de l'autre côté, vous avez des chômeurs, vous avez plus de 3 millions de chômeurs. Donc la question qu'on se dit, c'est quand vous dites que vous n'arrivez pas à retrouver des gens pour voir à ces emplois, est-ce que cette réforme, elle va changer quelque chose? Non, parce qu'on ne voit pas forcément le pourquoi.
D'abord, il y a deux choses. D'abord, c'est jamais qu'on ne trouve pas, c'est qu'on met du temps à trouver. Ouais. Et les emplois non pourvus, c'est le temps qu'on met à les pourvoir. Et donc, si quand il y a un taux de chômage élevé et très peu de tension du travail, quand on a une nouvelle demande, on met 15 jours ou un mois pour le trouver. Quand c'est plus tendu, on va mettre 2 mois. Et dans la période actuelle, peut-être 3 ou 4. Donc, il faut bien voir
Je veux dire, il y a autant de chômeurs, je veux dire, qu'avant.
Il y a moins de chômeurs qu'avant, les chiffres le montrent. Oui, mais il y en a toujours beaucoup et il y en a toujours trop. Oui. Après, il y a un deuxième sujet, c'est la qualification. Donc vous avez en fait deux morceaux à la réforme. Vous avez la réforme de l'assurance chômage, c'est modifier les comportements. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui sont en situation de travailler vont être plus incités à travailler et donc à faire un arbitrage? J'augmente mon intensité de travail et comme les entreprises ont des besoins, ça c'est bon pour la collectivité, leur niveau de revenu ne baisse pas. La quantité de travail offerte augmente, donc les besoins des entreprises sont mieux satisfaits et les dépenses de l'assurance chômage baissent. Donc là, on est dans un cercle vertueux qui va certainement se produire. Ce qu'il est difficile de quantifier, c'est jusqu'où ça va se produire et quelle quantité. Puis vous avez une deuxième partie du chômage, c'est les gens qui n'ont pas les bonnes qualifications. Et là, c'est toute la réforme de la formation professionnelle et ça prend évidemment beaucoup plus de temps.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. À votre avis, ça devrait, comme vous connaissez très bien ces sujets, ça devrait... porter ses fruits quand, en fait, cette réforme de la formation? Il faut quoi, 5 ans? Il faut combien de temps?
Pour en voir les premiers effets, il faut un minimum de 2 ans de pleine application de la réforme. Donc, la réforme entrant en vigueur au 1er janvier prochain, c'est fin 2021, début 2022, je pense qu'on pourra en mesurer l'effet. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne verra pas des premiers signes positifs avant, mais si on veut mesurer quantitativement les effets de la réforme sur l'employabilité des gens et sur l'amélioration sur le front du chômage, il faut compter 2 ans. Après, il y a des effets plus rapides sur l'apprentissage, on en voit les premiers chiffres.
Tiens, mine de rien, on a vu les chiffres, ils sont plutôt assez positifs sur l'apprentissage. Tiens, mine de rien, il va gagner son pari, Pierre Gattaz, en l'occurrence, sur les 1 million de chômeurs créés au moment du CICE.
Je pense que c'était plutôt 1 million d'emplois, Edwige.
Oui, 1 million. L'ai créé.
1 million de chômeurs n'a jamais été dans les objectifs du patronat.
Merci.
Mais oui, merci, encore une fois, mais là aussi, on est sur une question de temps. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait une politique de l'offre qui permet de restaurer au moins en partie la compétitivité des entreprises dans un environnement de croissance, les entreprises créent de l'emploi. Ensuite, il y a eu un peu de retard au démarrage entre le pacte de responsabilité et le moment où les premiers effets se sont fait sentir, notamment par le choix de l'outil qui était un outil qui avait des effets différés dans le temps, puisque François Hollande a choisi le CICE et non pas une baisse immédiate de charges. Mais c'est pas une surprise que dans une conjoncture mondiale correcte, une politique de l'offre ait des effets très bénéfiques sur l'emploi. Et il faut la poursuivre. On s'approche effectivement du million d'emplois. Et je crois que tout le monde a bon espoir qu'il ait été créé en 5 ans à la fin de cette année.
La baisse des charges, la dernière baisse des charges, donc pour vous, c'était salutaire, in fine?
Elle a sauvé l'économie française, sans aucun doute. L'industrie française avec certitude et l'économie française avec la même certitude.
On en parlera tout à l'heure, évidemment, avec Philippe Varin, que vous connaissez bien. Donc, c'est le rage des industriels, comme vous le soulignez. La réforme des retraites, juste, alors, il nous reste 3 minutes, donc on ne va pas prendre trop de temps, mais il y a quand même un point. Est-ce que vous avez le sentiment que petit à petit, plus on avance, plus on recule, entre guillemets, par rapport à la réforme des retraites? Parce qu'il ne faut pas, il faut pas brusquer les gens.
C'est un sujet particulièrement difficile. Donc, il y a des grands principes qui ont été affichés et je crois que la très grande majorité des Français partagent. autour de l'équité, autour des euros cotisés donnent les mêmes droits, autour de la multiplicité des régimes génère des inégalités, des avantages à certains endroits, des désavantages à d'autres, et que trouver une règle commune est un bon objectif. Maintenant, on est sur des sujets qui prennent du temps, on est sur des sujets qui, notamment pour les gens qui sont près de la retraite, peuvent impacter les droits et le parcours et les revenus qu'ils avaient imaginés. Donc, dès qu'on touche à un sujet comme les retraites, ça suscite de l'inquiétude. Et donc, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet, qui est pour le gouvernement de rendre ces arbitrages, d'expliciter les conséquences que ça va avoir pour les gens, et notamment d'accompagner tous ceux qui sont proches de la retraite, ou lequel ça a été très bien dit, il y a une forme de pacte social, et quelle que soit l'injustice ou l'inégalité ou le coût, on ne change pas les règles de quelqu'un qui est à quelques mois ou quelques années de son départ à la retraite. En tout cas, on les change à la marge.
Ouais.
Mais cette idée
donc
de remettre...
Donc là, vous plaidez pour la règle du grand-père, quand même, non?
Parce que la règle du grand-père, la règle du grand-père, c'est 45
ans. C'est tout, oui, c'est tout. Oui.
Alors,
oui,
entre quelques années de la retraite, c'est-à-dire 5 ans, où là, je pense qu'il faut donner des garanties très claires, et la règle du grand-père, qui est 45 ans, il y a peut-être des moyens termes, mais ces moyens termes...
C'est ça qu'on attend, les 45.
Mais ces moyens termes, on ne pourra les discuter et les trouver que quand les règles nouvelles auront été finalisées, pour que chacun puisse comparer ce qu'il va avoir dans le nouveau système avec ce qu'il pensait avoir dans l'ancien. Et c'est là qu'il faudra gérer les transitions, caler les durées. Mais dans tous les grands pays qui ont fait des réformes d'ampleur de ce type, une dizaine d'années pour gérer la transition, c'est avéré assez largement suffisant. Je ne vois pas pourquoi en France, il faudrait faire quelque chose de radicalement différent.
Il ne faudrait qu'un travail de la France.
Faut, avait si spécial. On veut rassurer, il faut maintenant dire clairement aux gens ce qui va se passer. Passer des principes au détail des mesures pour que chacun puisse faire ses comptes.
Vous avez raison, parce que cette espèce de flou artistique, c'est ça qui complique. Merci beaucoup Alexandre Sobeau d'avoir été avec nous, donc le patron d'Olotte Group. Dans un instant, c'est l'ambassadeur de France, François Bujon-Létang. On parlera des États-Unis. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec l'ambassadeur de France, François Bujon-Létang. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On rappelle toujours, mais pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas encore, vous avez été ambassadeur à Washington pendant longtemps, nommé par Jacques Chirac, que vous connaissez bien. François Bujon-Létang, dans un an, c'est sans doute un des événements les plus importants aux États-Unis, mais aussi pour l'Europe, l'élection américaine. C'est pas moi qui le disais, c'est un de mes invités ici qui disait c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Parce que si c'est encore Donald Trump qui est élu, alors là, ça devient quand même très difficile pour le monde occidental. Est-ce que vous partagez ce sentiment ?
C'est un moment très important pour l'Europe, pour le monde entier, je dirais. Pas seulement pour l'Europe et pour les États-Unis, mais pour le monde entier, parce que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis sont encore la puissance dominante. Voilà. Alors, Trump sera-t-il réélu ou pas? C'est évidemment la question à laquelle il est impossible de répondre. Nous sommes exactement à J-365. Toute prévision, comme chacun sait, est absolument impossible. Et il peut se passer beaucoup de choses pendant les 12 mois qui nous séparent du jour J. Mais il a de solides chances d'être réélu, tout le monde est d'accord avec cela. Si vous regardez les sondages, pour ce qu'ils valent, ils montrent très bien que sa base électorale est restée inentamée pratiquement depuis son élection. Il a une base, un socle électoral, si vous voulez, qui est extrêmement solide, qui tourne autour d'à peu près 40%, et les sondages montrent des hauts et des bas, mais on tourne toujours autour de cette base de 40%. Alors comme chacun sait, il en faut non pas 40%, mais 50 pour être élu.
Enfin, et encore, c'est compliqué. N'oublions pas, chaque fois que vous venez, vous nous expliquez justement la complexité du système électoral américain.
Tout à fait. J'allais dire qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas une élection au suffrage universel direct à la française. Les États-Unis sont un pays fédéral. Ils ont ce système très compliqué avec le collège électoral qui a permis à Donald Trump, d'ailleurs, on peut le rappeler, d'être élu il y a 3 ans en ayant 3 millions de voix de moins en vote populaire que son adversaire Hillary Clinton.
Oui. Alors, là, il se passe beaucoup de choses quand même aux États-Unis. Hein. On voit que Donald Trump est assez bousculé parce que cette procédure d'impeachment, vous avez dit, on en parlait depuis longtemps, vous disiez, elle n'aura jamais le temps d'aboutir. Mais est-ce que vous maintenez ce que vous nous avez dit? Et là, on sent quand même qu'elle progresse et que ça commence presque à humilier Donald Trump. D'où une espèce de réactivité, en tous les cas, c'est mon analyse, je ne sais pas si vous la partagez.
Oui, je la partage dans la mesure où il est évident que le début d'une procédure d'impeachment, jusqu'ici on parlait de la possibilité, de l'éventualité d'une procédure d'impeachment, mais maintenant on est entré dans une procédure qui a été déclenchée, qui a commencé. Que ça irrite Donald Trump, que ça lui prenne du temps, que ça l'occupe, c'est tout à fait naturel, bien entendu. Et à cet égard, je voudrais rappeler que Trump a eu quand même un premier mandat placé sous le signe de l'impeachment depuis le début. Il était à peine élu qu'on commençait à parler de raison d'impeachment.
Oui. De raison, mais là, tout d'un coup, la procédure a été lancée.
La procédure a été lancée par les démocrates au moment où les démocrates se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus ne pas lancer la procédure d'impeachment, quelque sorte. Alors, nous avons maintenant cette procédure qui va peser sur la quatrième année du mandat. C'est long, c'est compliqué, c'est aléatoire, ça n'aboutira probablement pas, puisque chacun sait qu'il faut pour ça une majorité importante au Sénat et que cette majorité n'existe pas pour le mettre...
Oui, mais il y a des révélations. Même ceux qui ne voulaient pas, même ces avocats qui ne voulaient pas s'exprimer sur la question ont été obligés, ou vont être obligés. On voit bien que ça progresse.
Absolument.
Avec des révélations quand même à la clé, il faut reconnaître.
Oui, oui, et avec des quantités de hauts fonctionnaires ou de dignitaires américains qui sont amenés à témoigner. Donc ça va beaucoup peser, mais n'oubliez pas que ça peut jouer dans les deux sens. Parce que d'une part, bien sûr, ça déstabilise le président, bien sûr, ça le met en difficulté, bien sûr, ça l'irrite. Mais d'un autre côté, ça place les républicains sur la défensive, et il existe toujours la possibilité qu'en les bousculant trop, on les ressoude, si vous voulez, et que ça ne joue en faveur de M. Trump. D'ailleurs, beaucoup de démocrates savent, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont retardé le déclenchement de la procédure d'impeachment, que ce boomerang peut très bien leur revenir dans la figure à un assez mauvais moment en période électorale.
En tout cas, est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, il faut toujours être très prudent, bien sûr, François Bujon l'étant, c'est qu'il sera le candidat des Républicains.
Ça me paraît tout à fait clair.
Il n'y en aura pas d'autres.
Il n'y a pas d'autres candidats républicains en vue. Et l'un des succès de son mandat, des premières années de son mandat, aura été de mettre la main complètement sur un parti républicain.
Il ne voulait pas de lui.
Départ, ne voulait pas beaucoup de lui. Vous vous en souvenez très bien, tous les caciques du parti avaient des doutes. Aujourd'hui, ils n'en ont pas.
Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un seul candidat? Donc à ce moment-là, il n'y a pas les élections. Les primaires.
Si personne ne se présente contre lui, il n'y aura pas de primaires.
Ça fait beaucoup d'économistes.
Du côté républicain, oui. Mais rassurez-vous, il y en a quand même beaucoup du côté démocrate, parce que là, ça n'est pas le vide, c'est le trop-plein, comme disait le journaliste.
Mais avec l'émergence quand même d'Elizabeth Warren, qui tout d'un coup devient la star, celle qui arrive à s'opposer assez justement à Donald Trump.
Oui. Alors, elle est un peu dans la position où était il y a 4 ans Bernie Sanders, c'est-à-dire une candidate de gauche. Et le fait que ce soit une candidate
très à gauche pour une démocrate.
Oui, très à gauche, comme l'était Bernie Sanders, mais de façon un petit peu différente. C'est aussi un sénateur, une sénatrice, comme on dit de nos jours, extrêmement expérimentée. Elle est sénateur du Massachusetts depuis très longtemps, elle a beaucoup d'expérience, elle est articulée, elle parle avec simplicité mais de façon claire, et elle a fait jusqu'à présent une très bonne performance comme candidate aux primaires. Alors il reste bien entendu cette terrible course de haies qu'est l'année des primaires. Ça va commencer au début du mois de février avec le caucus de l'Iowa, et on ne sait pas du tout ce que ça donnera au bout de quelques mois. Mais aujourd'hui, elle a réussi à s'imposer comme celle qui est en tête du peloton.
La grande inconnue, en fait, ça va être l'état de santé de l'économie américaine, parce que c'est là où on verra si, en fait, l'action menée conduite par Donald Trump a apporté ses fruits, en tous les cas, pour les Américains.
Tout à fait.
Là, il y a beaucoup d'interrogations, une fragilité, en tous les cas, de l'économie américaine, qui, avec une croissance, on en parle tout le temps ici sur BFM Business, qui effectivement marche plutôt, est plutôt faible. Quelle est votre analyse, l'impact que ça peut avoir?
Elle est plus faible, mais nous troquerions volontiers notre croissance pour le leur.
Absolument.
Donc, il faut toujours mettre un bémol à la clé quand on parle de tout cela, parce qu'on ne cesse de minimiser les performances de l'économie américaine, qui est très résiliente et qui sont très bonnes. Soyons honnêtes. Alors, premièrement, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est ce qui sera décisif pour l'élection dans un an. Elle se jouera, bien entendu, comme d'habitude, sur la situation économique du pays. Rappelez-vous la fameuse citation de Clinton face à Bush, Bush père dans l'élection de la première, « It's the economy, stupid ». C'est cela qui déterminera le succès ou l'échec de Donald Trump. Pendant les 2 premières années de son mandat, il a fait une réforme fiscale qui a porté d'excellents fruits sur le plan de la croissance. Et la croissance américaine a été tout à fait excellente pendant les 2 premières années. Elle tend à s'essouffler un petit peu, et surtout l'effet immédiat de la réforme fiscale se fait moins sentir que pendant les 2 premières années. Mais cette croissance reste quand même assez vigoureuse. Le taux de chômage reste extrêmement bas, et les indicateurs de l'économie américaine ne sont pas si mauvais aujourd'hui. Alors, bien sûr, tous les conjoncturistes, tous les économistes vous disent qu'on s'attend à un essoufflement ou à un fort ralentissement de la croissance dans les 12 mois qui viennent. Nous allons voir, nous allons voir. Jusqu'à présent, il ne s'est pas produit grand-chose dans ce domaine et tous les cassandres n'ont pas eu énormément d'écho. C'est évidemment ça qui déterminera le succès ou l'échec de la candidature Trump. Il y a aussi l'effet de la guerre commerciale qu'il a déclenchée avec la Chine.
Je vous laissais finir votre phrase.
Oui.
Bon, évidemment,
j'anticipe
grand impact.
La question.
Oui.
Ça me paraît très important parce que les Chinois.
Oui, mais c'est lié.
Oui, mais c'est très lié. Et les Chinois, qui sont de fines mouches, savent très bien choisir, lorsqu'il y a des sanctions contre eux, les contre-sanctions qu'ils appliquent à l'économie américaine. Ils appliquent des contre-sanctions qui font mal à l'électorat traditionnel de M. Trump.
Oui, ils sont plus finaux que nous, les Européens, en l'occurrence.
Hein. Ils savent très, très, très bien s'y prendre, d'une façon générale, là-dessus. Et par conséquent, M. Trump lui-même peut mesurer la limite, jusqu'où il peut aller. Il y a un danger à se lancer dans une... Il y a un double danger à poursuivre vigoureusement la guerre commerciale avec la Chine. Le premier, c'est que ça a un effet sur la croissance, que ça contribue à ralentir. Le second, c'est que ça incite les Chinois à prendre des mesures qui blessent ou qui font du mal à l'électorat de base de M. Trump.
Toute dernière question, vous avez 30 secondes, vous pouvez sortir votre joker. Le Brexit, là, donc, au moins il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'au moins on a des élections, on a... Ça y est, on est sorti de cette espèce de marécage dans lequel on s'était enlisé.
On n'en est pas sorti. Et les élections vont y ajouter. Elles auront lieu sans doute le 12 décembre. Et il n'est pas du tout dit qu'elles dégagent une majorité claire qui fera vraiment avancer les choses. Nous sommes dans le marécage, nous y restons.
Bon, et ben voilà, sur cette touche très optimiste de François Bujon de l'Étang, on vous quitte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Club de l'Orage. Dans un instant, c'est Philippe Varin. Il est le président de France Industrie. Il est président du conseil d'administration d'Orano Gros. Contrat, éventuellement, enfin il y a peu de chance, mais en Chine avec la visite du président Macron. Et puis tiens, peut-être une petite question à l'ancien patron de PSA sur cette fusion PSA-Fiat-Chrysler. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il s'est installé, Philippe Varin, bonjour.
Bonjour Edith.
Bonjour, juste installé. En l'occurrence, beaucoup de questions. Prenez des forces, parce que je crois qu'entre PSA, Orano et puis France Industrie, ça fait beaucoup de sujets. Mais pour l'instant, rappel des titres, Thomas Asportas.
Et l'actualité à suivre, bien sûr, aujourd'hui, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Chine. C'est la deuxième fois que le chef d'État se rend en Chine depuis son élection. Et ce creux 2019 a clairement des visées commerciales avec une cinquantaine de patrons français qui vont accompagner Emmanuel Macron, dont votre invité, Edwige, Philippe Varin. Et évidemment, on va surveiller la signature d'un contrat à plus de 10 milliards d'euros pour Orano, pour une usine de retraitement du combustible. Votre invité, j'imagine, Edwige, vous en dira plus dans un instant. Le secteur manufacturier reste en contraction en zone euro pour le 9e mois d'affilée. Les PMI manufacturiers en octobre sont toujours au plus bas depuis 7 ans. En Allemagne, les nouvelles commandes à l'industrie ont reculé pour le 13e mois d'affilée. En France, en revanche, l'industrie résiste avec une production manufacturière qui a continué de progresser le mois dernier. Sur le front des tensions commerciales, et puisqu'on parle d'industrie, le secteur automobile va peut-être pouvoir un peu souffler. Les États-Unis pourront en effet renoncer à des droits de douane envisagés à partir du 14 novembre, des droits de douane de 25% sur les importations américaines d'automobiles. Le secrétaire au commerce Wilbur Ross affirme que les échanges ont été fructueux ces derniers temps avec les constructeurs européens, japonais et coréens. Et puis pour finir dans l'actualité des entreprises, Bruxelles ouvre une enquête sur une possible collusion entre Casino et Intermarché. Les deux groupes ont créé en 2014 une centrale d'achat commune et la Commission européenne s'inquiète que Casino et Intermarché se soient livrés à un comportement anticoncurrentiel. Margaret Vestager lance une enquête approfondie sur le sujet. BFM Business midi 32. On retourne sur les marchés à la mi-journée. Je vous redonne le CAC qui est toujours dans le vert, qui progresse, qui accélère, qui gagne 1,17% à 5829 points, nouveau plus haut annuel. L'euro dollar est stable, 1 euro s'échange pour 1,11 $.
Merci Thomas. À suivre Philippe Varin. Industrie, Orano, gros contrat en Chine peut-être. Peu de chance, mais enfin on ne sait jamais. PSA, c'est à suivre. Surtout restez avec nous sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Une heure H décidément industrielle. Notre invité, c'est Philippe Varin. Il est président de France Industrie. Bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là. Vous êtes aussi président du conseil d'administration d'Orano, ex-Areva, etc. On va simplifier. Et puis, vous avez été patron de PSA, donc évidemment, j'aurai quelques questions, comme vous pouvez imaginer, sur ce scénario qui est en train de se réaliser, de rapprochement et de fusion avec Fiat Chrysler. Philippe Varin, d'abord, l'actualité, visite du président Macron en Chine. Est-ce qu'il y aura des avancées sur cet énorme contrat qui est en négociation, quoi, depuis 10 ans, 15 ans, entre Orano, alors avant c'était Areva, et les Chinois? Est-ce qu'il y aura une avancée? Est-ce que vous êtes confiant pour une fois ou pas?
Ah ben, les négociations ont bien avancé. Vous savez, on a signé un contrat de 10 000 pages.
Oui, vous étiez déjà venu me l'expliquer.
Voilà,
ça,
il reste une page à signer qui est celle du prix et qui peut prendre un peu de temps. Et donc, je pense qu'à l'occasion de cette visite, des signaux positifs seront donnés de nouveau, mais je n'anticipe pas que l'on signe un accord spécifiquement sur cette usine.
Oui, en fait, ça bloque sur quoi? C'est le prix uniquement?
Oui, c'est le reste.
Parce que vous demandez quoi? Ils demandent combien, les
Chinois? Je ne vais pas mettre sur la table nos négociations commerciales, ceci a été déjà indiqué.
C'est pour ça que je vous le dis.
Il est normal qu'on ait des divergences sur le prix, ça fait partie d'une négociation et ça prend du temps, surtout avec nos partenaires chinois.
Non, mais au départ, on parlait donc. Donc là, vous n'attendez rien de cette visite, soyons clairs.
J'attends une impulsion supplémentaire dans le processus. Et
une confirmation peut-être.
Confirmation que ce projet est essentiel pour les deux pays et c'est déjà très bien. Bon, ouais. Et on va pas conclure les négociations sur le prix dans la journée.
Non, mais alors au départ on parlait d'un contrat de 30 milliards, maintenant on a parlé de 20 milliards, on parle de 15 milliards, maintenant on est plutôt de 10 milliards. Est-ce qu'on est là, est-ce que c'est un chiffre qui est à peu près dans l'épure ou pas le 10 milliards?
C'est dans l'épure, ça a déjà été cité.
Ouais.
C'est un peu plus que ça, probablement, d'ailleurs.
Un peu plus que ça. Ouais. Non, mais parce qu'au point qu'il y a certains qui disent, mauvaise langue certainement, mais qui disent, en fait, il y aura un gros, parce que c'est sur une usine de retraitement du combustible. Donc
oui, mais n'oubliez pas qu'il
y aura un transfert de technologie.
Il y a une confusion dans les chiffres. C'est que nous avons d'une part un contrat,
et puis
CNNC, notre partenaire chinois, doit construire l'ensemble de l'usine. Donc l'ensemble de l'usine, ce sera beaucoup plus que le montant du contrat. Voilà.
Oui, donc on sera 10 milliards plus la construction de l'usine.
Non, mais je ne vous donnerai pas d'indication sur le prix aujourd'hui.
Oui, mais voilà. Alors sur la question de transfert de technologie, pardon, parce que c'est sur un point extrêmement important.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup de transferts de technologie?
Il y a effectivement, dans notre savoir-faire, des points qui sont absolument clés de savoir-faire, et cela, nous les protégeons.
Oui, et donc ça veut dire quoi là?
Cela, nous les protégeons, nous pouvons fournir des équipements critiques, mais nous ne donnons pas tout le détail de notre savoir-faire.
D'accord, donc le transfert des technologies sera limité, c'est ça que vous nous dites?
Il y a un transfert des technologies, il est très bien encadré, oui.
Oui, d'accord, okay, c'est parce que c'est un point important. Est-ce que vous serez encore président du conseil d'administration de Orano lorsque ce contrat sera signé ou pas, Philippe Varin?
Écoutez, je ne peux pas vous répondre. J'espère que ce contrat sera signé rapidement.
Rapidement, oui. D'accord. Okay, c'est pas important. Tiens, l'introduction en bourse d'Orano, c'était à un moment on avait envisagé ça, mais on était encore dans les doux rêves. Ou pour l'instant,
non,
c'est
ça
difficile.
Fait partie des schémas qui sont dans les 3 ans à venir envisagés. Il n'y a pas du tout de décision prise, mais Orano va bien. Orano se développe. Nous avons terminé la phase de restructuration, et donc il est important que l'on puisse réfléchir à nos développements futurs, et ceci peut inclure un peu des besoins en matière de capital, oui.
Oui, d'accord, donc ça reste dans les...
Ça reste un sujet d'actu.
À horizon de 3 ans.
Oui, dans les 3 ans qui viennent, oui.
Philippe Varin, est-ce que vous avez quand même été surpris par la violence de la charge de l'État et du rapport de Jean-Martin Foltz sur la filière nucléaire française? Quand même, c'était...
Je ne suis pas surpris du contenu de ce rapport. Et Jean-Martin Foltz, que j'estime beaucoup, à mon avis, dit des choses tout à fait vraies. Elles étaient connues et elles sont expliquées de manière très simple. En gros, ce qu'il nous dit, c'est il y a une bonne technologie, elle est mise en œuvre en Chine avec succès, mais en même temps, il y a des déficiences assez massives dans le domaine, notamment des compétences, puisque nous n'avons pas construit d'usine depuis 20 ans. Et deuxièmement, le domaine des compétences, ce n'est pas l'unique sujet. Et l'unique sujet, c'est aussi les questions d'organisation et de gestion de la qualité. Voilà, donc voilà ce qu'il nous dit. Et je pense qu'il est important que l'ensemble de la filière réfléchisse aux conclusions de ce rapport.
Mais est-ce qu'à moi, c'est suffisant pour trouver la bonne solution à la sortie de la filière nucléaire française?
Je pense qu'il faut que la filière travaille sur les bases de ce rapport. Et on verra les conclusions que Jean-Bernard Lévy pas proposé dans un horizon assez proche, je pense.
Oui, absolument. Philippe Varin, on parlera de PSA après, hein, parce que là aussi c'est intéressant, mais on va parler d'industrie, parce que le nucléaire, c'était quand même un des fleurons de l'industrie française. On voit que quand même, on connaît les difficultés. On a envie de dire l'industrie que vous défendez, il y a l'automobile, certes, mais il y a le luxe. Mais sinon, quand même, l'industrie française, elle peine à se transformer. Et les chiffres sont là un peu pour appuyer mes dires.
Quelle est la situation de l'industrie ? Nous avons fait face à un déclin depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm. Ce déclin est enrayé, mais il est juste enrayé. Il est nécessaire que la compétitivité, qui reste un sujet majeur, soit traitée. C'est pour ça que nous accueillons...
On est passé de 17 à 12 %.
Voilà. On est passé en part de l'industrie dans le PIB, on est passé de 17 à 12 % sur les 20 ans. Et nous avons... détruit 1 million d'emplois. Tout ceci, je pense maintenant, est derrière nous. Mais il faut bien voir que la crise des gilets jaunes que nous avons vécue a là des racines liées à la désertification industrielle en France. Et donc, il est absolument essentiel de retourner cette tendance. Alors, le déclin est enrayé. Depuis 2 ans, on crée plus d'emplois qu'on en a détruit. On a eu en moyenne 10 000 emplois par an sur les 3 ans. Nous avons créé plus de sites que nous avons fermés. Et ceci était
pareil. C'est plus vrai, maintenant c'est plus vrai, ça a été vrai.
Ça a été vrai sur en 2017, en 2018, premier semestre de 2019. Et je crains qu'effectivement, au deuxième semestre de 2019,
on soit inversion de la courbe, enfin, équilibré.
Voilà. Donc, c'est pour ça que le déclin est enrayé, c'est une bonne nouvelle, mais il est absolument essentiel de travailler sur la compétitivité des entreprises, parce que si on regarde comment on se compare à nos voisins européens, d'une part, notre part de marché dans les exportations de l'Europe s'est réduite, elle est passée de 17 à 11 %, et puis notre balance commerciale reste très négative, avec moins 64 milliards d'euros.
Oui, gigantesque.
Tout, je dirais, le point absolument clé, ce pacte productif, il arrive en termes de projet au bon moment. C'est un projet que l'on salue, puisque c'est un projet collectif, sur la France, pour la France, pour avoir une industrie, une vraie France qui produit, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a cherché à faire depuis 20 ans, mais qui produit en respectant, bien sûr, la planète dans son ensemble. Donc, le pacte productif, nous en saluons l'ambition, nous mesurons l'ambition également, parce que le retour au plein emploi en 2025, c'est un très gros défi, et il va falloir, entre guillemets, renverser les tables sur plusieurs sujets. Et le mot pacte et le mot productif sont deux mots importants. Parce que pacte, ça veut dire qu'il faut changer de fonctionnement entre l'État, l'industrie et les ménages sur certains domaines et les territoires. Et puis productif, parce qu'effectivement, c'est un message que la France reste une terre de production.
Mais justement, est-ce que dans votre pacte productif, c'est entre Bercy et vous, hein, grosso modo, entre Bruno Le Maire et Philippe Varin et Louis Gallois, on va dire, grosso modo, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les régions dedans?
Mais les régions sont dedans.
Au plus haut niveau, quoi.
Je vais vous dire, moi, les points sur lesquels il faut effectivement des ruptures. En gros, il y en a 5. Il y en a un qui est celui des compétences, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir aujourd'hui, alors que nous avons un taux de chômage à plus de 8,5%, avoir des difficultés pour recruter un emploi sur 2. Et on fait beaucoup de choses sur ce domaine qui sont lancées. Il ne faut pas trop de nouvelles mesures, mais bien faire ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire avoir une carte des métiers au niveau national, avoir des balances emploi-ressources de besoin. Sur l'apprentissage, nous prenons un engagement d'augmenter de 50% en 5 ans les apprentis, et on est vraiment sur la tendance. Dans la formation technique de l'éducation nationale, les jeunes en 3e, ils décident d'aller vers l'enseignement technique, et c'est bien. Donc, ça, nombre de choses ont été faites. Et donc, il faut qu'on continue. Ça, c'est la première
priorité. Ouais.
Il y en a 4 autres qui sont... Je vais aller assez vite. Hein. Un, c'est l'écoute, la compétitivité écoute. La deuxième, c'est la transition écologique. Et là, il y a une certaine urgence.
Quand on dit l'écoute, c'est les coûts.
Les coûts.
C'est pour ça que je...
COUT, pardon. La technologie, parce qu'il faut que la France et l'Europe assurent la suprématie technologique. Et le quatrième point, c'est ce que vous avez évoqué, ce sont le pacte territorial, si vous voulez. Voilà. Alors, la question, c'est, sur ces sujets, quelles sont les ruptures? Sur les coûts.
Et qui sert comme marge de manœuvre.
Coûts.
On peut dire quand même, parce que ça, c'est un côté un peu plus festif, entre guillemets. Il y a l'usine extraordinaire, donc à Marseille, alors, le 14 au 19. Si... Vous l'avez déjà fait au Grand Palais à Paris. Là, cette fois-ci, justement, puisqu'on parle du territoire, vous êtes à Marseille.
Alors, si on veut voir ce que sont ces défis et comment l'industrie va y répondre, il faut aller voir l'usine extraordinaire à Marseille. Ça se passe donc en fin de semaine prochaine. Ce sera le 14, 15 et 16 novembre. C'est sur le port. et près du Mucem. Et il y a également une partie qui est sur un navire qui sera ancré.
Espérons qu'il n'y ait pas des,
il y aura
des
20 000
inondations
Non, il y aura 20 000 visiteurs, c'est couvert, il y a 50 000 mètres carrés d'exposition, il y a 76 entreprises qui vont partager avec les visiteurs, les jeunes, les parents, les professeurs, comme on l'a fait à Paris au Grand Palais. Ils vont partager leur expérience de l'industrie et toutes les solutions qu'ils
tout
proposent.
Ça, ça fait partie, comment redorer le blason de l'industrie, montrer que ce n'est pas forcément les forges et les... même si les métiers sont quand même assez...
Eh bien, on viendra le découvrir à Marseille la semaine prochaine, et ce sera l'occasion pour le Conseil national de l'industrie de tenir sa séance plénière, et on va traiter des engagements des filières dans le pacte productif.
Alors, engagement des filières, ça c'est très bien. Il y a l'engagement du gouvernement, notamment sur les impôts de production, parce qu'il y a un lobbying, et ici on le voit bien dans ce studio, où vous défilez tous pour expliquer, voilà, les impôts de production, mais c'est normal. Moi j'ai juste une question là-dessus. Les impôts de production, ça date pas d'hier, on est bien d'accord. Pourquoi tout d'un coup, là, maintenant que vous avez obtenu ce que vous voulez sur la baisse de l'IS, en partie, même si c'est décalé, etc., etc., mais enfin, une baisse de l'IS, du coup, là, et sur les baisses des charges, maintenant, c'est le troisième volet de lobbying intense sur l'impôt de production.
Oui, sur les coûts de production.
Parce que ça existe il y a deux ans, et deux ans, vous m'en disiez pas un mot.
C'est pas vrai. Moi, j'en parle depuis que je suis à la tête de PSA, d'ailleurs. J'étais un des premiers à soulever ce problème. C'est 80 milliards d'euros.
Ouais.
C'est plus que l'IR. C'est plus que l'IS. Donc, ce que nous demandons...
Mais il fallait commencer par là, j'ai envie de dire.
Le faire. Je crois que c'est tout à fait complémentaire à ce qui était fait sur l'IS. Mais aujourd'hui, nous souhaitons que le pacte productif... Enfin, il n'y aura pas de pacte productif robuste s'il n'y a pas une dimension baisse des coûts. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une vingtaine de milliards de réduction des coûts en deux parties. D'une part... les impôts de production. Et là, je dirais, il y a des impôts qui sont, entre guillemets, toxiques, parce qu'ils sont impôts avant qu'on ait fait...
Lesquels? Alors, 10 milliards sur quoi?
La taxe sur le chiffre d'affaires, appelée C3S.
Ouais.
La contribution économique territoriale, appelée taxe d'habitation des usines. On a supprimé la taxe d'habitation des ménages, on va le faire, et la taxe d'habitation des usines, elle reste là.
Vous voulez qu'elles vivent comment, les collectivités territoriales?
Alors, il y a une dimension... effectivement, fiscalité territoriale, il va falloir trouver des solutions, mais les autres pays ont trouvé des solutions. Donc, ça, c'est un premier volet. Et l'autre volet, alors ça, c'est une mesure, je dirais, qui s'applique de manière générale. Et l'autre volet, il doit être plus spécifique, lié à l'investissement, soit des nouveaux sites, soit des extensions, et notamment pour tous les investissements verts, écologiques. Et là, ce que nous allons proposer, mais je ne sais pas quelle sera la proposition aujourd'hui, c'est soit un crédit d'impôt sur les impôts de production, soit un suramortissement. Donc voilà ce que nous allons proposer sur les coûts, puisque c'était le premier point.
Mais
Deux mots sur l'écologie, sur le.
Oui, juste je reste un instant sur les 10 milliards, parce que lorsque vous posez la question au ministre de l'économie, il vous dit mais il y a pas très peu de marge de manœuvre.
Bruno Le Maire,
son bras droit, Agnès Pannier-Runacher, elle dit on a une vision de 10 milliards jusqu'à 2025, mais je sais pas, c'est pas encore certain. Hein.
Bruno Le Maire s'est exprimé sur ce sujet,
donc
il s'est exprimé, après on verra bien sûr comment tout ceci est traduit dans les actes, mais il a pris des positions très positives sur ce thème, et je crois qu'il nous a entendus.
Oui. Donc vous espérez quoi? 10 milliards d'ici 2025?
Pour la partie, au total, sur les 80 milliards, il faut une vingtaine de milliards. Et je vous ai dit, il y a deux parties, il y a 10 milliards sur les impôts de production, et 10 milliards sur des mesures liées à l'investissement, pour favoriser l'investissement, et ça peut être soit un suramortissement, soit un crédit d'impôt sur les impôts de production. On y travaille en ce moment.
D'accord.
Voilà.
Et la partie écologique?
Alors, la partie écologique. Bon, il ne peut pas y avoir de pacte productif s'il n'y a pas un pacte écologique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une certaine situation d'urgence. Alors, simplement, que se passe-t-il aujourd'hui? On sait que c'est urgent, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il y a une certaine dose d'anxiété, parce que les solutions n'apparaissent pas très clairement. Le sujet, il n'est pas très compliqué dans le principe. Nous émettons 450 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Et à l'horizon 2050, il faut qu'en net, on soit proche de zéro, c'est la neutralité à l'horizon 2050. Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que sur chacun des domaines de l'écologie, il y ait un pacte entre l'État qui définit une feuille de route, les ménages qui doivent faire une partie du chemin parce qu'il y a des comportements qui changent, et puis l'industrie qui apporte les solutions. Alors, en pratique, dans le domaine du mix électrique, on n'a pas de sujet en France avec le nucléaire et les renouvelables, donc on s'en réjouit.
Pour l'instant, oui.
Sur les procédés industriels, les industriels et les filières travaillent sur ce sujet pour voir quelle peut être leur trajectoire. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est-à-dire exporter des usines qui ont des performances correctes, et puis ensuite rapatrier les produits, parce qu'on peut réduire notre émission carbone en France. Ah bah mais oui, si on ferme des usines...
Moi, c'est ce qu'a fait l'industrie.
Il faut considérer,
le plan de charge de l'industrie française.
Il faut considérer l'empreinte, si
pour
vous voulez.
Participer.
Sur les, il faut considérer oui. l'empreinte sur les produits que l'on ramène, si vous voulez. Donc, oui. on pense qu'on peut décarboner nos procédés en maintenant de l'industrie lourde en France. Ensuite, il y a les transports. Je pense qu'il y a un plan. Parce que le consommateur, il sait qu'il va devoir utiliser les véhicules électriques ou électrifiés. Il y a un plan de travail, et l'État a mis des moyens en face. Il faut suivre cette feuille de route, mais il y a un plan. Le problème que nous avons aujourd'hui, enfin la question qui peut se poser, c'est qu'il y a deux secteurs qui sont bâtiments, construction, tout le logement, et le secteur agroalimentaire sur lesquels il faut mettre en place un vrai oui. plan à 10 ans.
Les bâtiments, logement, le gouvernement est en train de supprimer le CITE, comme on l'a expliqué.
Oui, ben, je pense qu'il y a effectivement sur... Mon point, c'est qu'il faut un plan global qui sera différent selon les 5 domaine que je viens de citer, mais ce plan global, il doit être un plan entre l'État, les ménages et l'industrie.
Ça fait partie voilà. du pacte productif. Quand est-ce qu'il sera signé? Quand est-ce que vous espérez d'être vraiment écouté? Parce que quand vous nous expliquez, on souscrit à 100%. Après, quand vous discutez encore une fois à Bercy, on vous dit c'est pas si évident que ça. Donc, non, quand est-ce que vous espérez avoir une signature? Je vais reprendre votre expression à propos du fameux contrat d'Orano, la dernière page. Il manque juste la dernière page avec la signature, voyez.
Ce que a donné l'État comme point de repère, je pense que c'est un pas qui serait annoncé au début d'année prochaine, hein, donc qui porterait jusqu'à l'horizon 2025. Mm-hmm. Mais ce pacte, il ne doit pas contenir uniquement des éléments sur les coûts ou sur l'écologie. Il y a un troisième et un quatrième domaine très important. Le troisième, c'est la technologie. C'est la question de la suprématie technologique. Et aujourd'hui, nous avons en France une bonne recherche, puisqu'on a un crédit d'impôt recherche, on a de bons ingénieurs, on a une recherche publique de qualité. Mais je pense que le soutien de l'État à l'industrie pour sa recherche, il peut être amélioré. C'est-à-dire qu'on a parfois des processus de décision trop longs, on a parfois des formules de prêt à taux zéro, etc., qui ne conviennent plus aujourd'hui.
Oui, mais une entreprise, c'est privé. Donc, pourquoi vous avez autant besoin de l'État? C'est
pays,
toujours ma question.
Tous les pays sur l'innovation.
Pourquoi vous avez besoin de l'État à ce point-là?
Tous les pays sur l'innovation de rupture. Et si vous prenez, à commencer par les Américains, avec l'agence dite oui, DARPA, ouais. et si vous voyez toutes les réussites de Tesla, d'Elon Musk, etc., si vous prenez l'origine, ouais. ce sont des contrats d'État. Et ce que nous pensons, c'est que les différents mécanismes d'aide à l'industrie, c'est-à-dire le plan d'investissement d'avenir, le fonds de l'innovation, comme l'indiquait Bruno Le Maire, pourraient probablement être regroupés dans une agence et surtout mieux connectés à ce que fait l'Union européenne, qui va faire des choix, qui a commencé à les faire en matière d'industrie.
Tiens, deux questions. Juste, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Margrethe Vestager. Donc, elle dit, on n'a pas besoin de grands champions industriels. On a des ETI, on a des... L'écosystème, il doit être très vaste. Pas forcément, c'est fini ce mode de raisonnement de grands champions. Vous lui répondez quoi? Oui, vous avez raison.
Je pense qu'on peut avoir à la fois des grands champions européens, et on se réjouit qu'on en ait, et aussi avoir un tissu de PME et c'est d'ETI qui soit tout à fait fort. Et pour ça, par contre, ce qui est important, c'est de donner quelques indications sur les domaines prioritaires.
Moi, j'ai un domaine prioritaire. Je suis désolée, j'ai un domaine prioritaire. Il nous reste 3 minutes. Je veux quand même vous poser la question. Ce scénario, cette fusion de PSA Fiat Chrysler.
Je vous réponds. Oui. Je vais simplement indiquer un point sur la technologie. Bon, mon point, c'est que le pacte doit avoir un volet sur la technologie. Il doit en avoir un aussi sur les territoires. Parce que oui, vous avez mentionné le point.
Bien sûr, mais
il y a une envie dans le pays d'industrie.
Et Philippe Varin, mais tournez pas autour du pot. Philippe Varin, est-ce que vous aviez étudié ce scénario de rapprochement avec Fiat Chrysler lorsque vous étiez le patron de PSA?
Les relations entre Fiat et Peugeot, historiquement, ont toujours été bonnes et proches. La dimension Chrysler est une dimension importante, hein, puisqu'elle n'était pas à l'époque présente. Et si vous voulez que je vous dise que ce rapprochement en fait du sens, la réponse est oui, parce qu'il y a une complémentarité géographique indiscutable, puisque PSA n'est pas présent aux États-Unis. Il y a également une complémentarité technologique, puisque je pense que la technologie de PSA et les ingénieurs disponibles pour mettre en place des synergies, des transferts, c'est sur la table, et que Chrysler a certainement besoin de soutien sur le plan technologique. Donc je pense que l'ensemble fait beaucoup de sens.
Oui, en même temps, il y a un Fiat qui est un peu le malade de ce trio quand même. Est-ce que ça peut se faire sans trop de casse sociale?
écoutez, les présidents des deux sociétés ont donné des indications positives à ce sujet. Moi, je ne peux pas faire de devinettes sur ce qu'ils ont dit. Je pense qu'ils ont pris ce parti.
Est-ce que c'est vraiment une fusion entre égaux? Est-ce que ça existe, les fusions entre égaux?
Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit entre guillemets une fusion entre égaux. C'est une fusion.
Oui.
Il y a un certain nombre de dispositions qui sont...
Ah, moi, je reprends l'expression. Hein.
Qui sont, oui, mais qui sont,
pas moi qui le dis, hein.
Qui sont prévues au niveau de la gouvernance. Tout ceci me paraît faire du sens.
Oui. Le fait que ça soit... Le gouvernement ait donné son... Enfin, ait mis son veto par rapport à Renault et donné son accord par rapport à PSA, est-ce que c'est compréhensible?
Écoutez, je pense que l'actionnaire de PSA, qui est...
Mais c'est deux familles, hein, ça compte.
L'État, mais pas uniquement, a pris cette décision et je pense qu'elle est dans l'intérêt à la fois de l'entreprise et à la fois aussi potentiellement de ses actionnaires quand on connaîtra les conditions. Oui.
Mais est-ce que juste pour boucler la boucle, Philippe Varin, on sent que vous êtes assez prudent sur cette question, mais malgré tout, c'est un grand groupe industriel, ça deviendra le quatrième groupe mondial, est-ce qu'il restera français ou pas, vous voyez, est-ce que maintenant il faut s'habituer à ce que, y compris des fleurons aussi prestigieux que PSA, deviennent internationaux et perdent un peu leur côté tricolore.
Je pense que internationaliser PSA est certainement une très bonne démarche. Moi, j'ai contribué sur la Chine quand j'étais aux commandes. Je sais que les États-Unis sont une question et qu'elles trouvent une solution. Donc, ça me paraît très très bien.
Il faut jouer
sur la scène mondiale, bien sûr.
Mais c'est un groupe qui n'est plus vraiment français.
Il restera, je dirais, les racines françaises, vous savez, de Peugeot et de Citroën, elles vont rester, hein, ne serait-ce que dans l'image de marque.
Oui, mais le siège, il sera aux Pays-Bas, vous le regrettez?
Mais il y a beaucoup d'entreprises mondiales qui ont leur siège aux Pays-Bas. Airbus est français, il a un siège aux Pays-Bas.
Hein. Oui, question de fiscalité, voilà. En tout le cas. Merci beaucoup, Philippe Varin.
Merci
donc
beaucoup.
L'industrie, le flambeau de l'industrie française, Philippe Varin était notre invité. Je résume, pas beaucoup d'espoir sur une signature Renault, mais peut-être en tous les cas d'ici quelques années. Et puis donc aller voir l'usine extraordinaire, c'est à Marseille, donc mi-novembre. Ça vaut le coup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain à 8h15. On parlera à quelqu'un que vous connaissez bien. Demain, je recevrai Arnaud Montebourg, c'est le salon Made in France. Évidemment, je lui poserai une question à l'ancien ministre du redressement productif, une question sur PSA. À demain à 8h15, sinon rendez-vous dans l'orage.